L'ange étant donc présenté devant elle, lui dit, Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Elle, après l'avoir entendue, se troubla à ces paroles et elle se demandait ce que voulait dire cette salutation. Alors l'ange lui dit, Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici, vous allez concevoir et mettre au monde un fils et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Aussi l'être saint qui naîtra de vous sera-t-il appelé le Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a aussi, elle aussi, conçu un fils dans sa vieillesse. Et ce mois-ci, le sixième mois, de celle qu'on appelle stérile, car avec Dieu, il n'y a rien d'impossibilité pour aucune parole. Il n'est d'impossibilité pour aucune parole. Et Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Veuillez vous asseoir. Et quelques annonces. Je recommande vos prières, donc cette deuxième retraite, dernière retraite de l'année que j'ai prêchée cette semaine qui arrive. Donc j'ai eu des annulations de dernière minute, ce qui fait qu'il y a deux places libres pour cette retraite du 2 au 7 octobre. Donc si quelques personnes qui m'écoutent sur Internet surtout souhaitaient venir, qu'ils sachent qu'ils peuvent venir, mais qu'ils préviennent le plus vite possible. Dimanche prochain, le 8 octobre, nous aurons le dernier pique-nique de la paroisse. Après la messe de 10 heures. Donc, comme d'habitude, chacun amène ce qu'il peut et puis on partage tout fraternellement. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc lundi, demain, messe à 8 heures ici à Padiès. Ensuite, les messes aux horaires des retraites à Récombis, au gîte où je prêche. Donc, 7h30 le matin pour mardi et mercredi. Jeudi, messe à 7h pour l'enfant prodigue. Vendredi et samedi à 7h30. Pas de cours, bien sûr, ce mercredi, pas de cours de magistère à cause de la retraite. Profitez-en pour travailler les derniers cours que vous n'avez peut-être pas écoutés. Encore une fois, le calendrier 2024 des retraites, des 7 retraites 2024 est publié. Encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous y inscrire. Nous avons déjà 15 inscriptions. Donc pensez à vous inscrire au plus tôt dès que vous sachez de façon certaine que vous pouvez venir à une retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui un grand chef de guerre. C'est vraiment comme ça qu'il faut appeler notre Sainte Vierge Marie. Et puisque nous sommes aujourd'hui en pleine guerre, littéralement guerre spirituelle contre le démon, ses pompes et ses œuvres, eh bien, il nous faut utiliser celle qui a été choisie par Dieu pour être celle qui allait écraser la tête du démon. Il ne faut pas oublier ça. C'est une erreur grave de conséquence de ne voir en la très sainte Vierge Marie que la douceur, la gentillesse, la charité au niveau humain. On oublie qu'elle a été choisie par notre Seigneur Jésus-Christ, de tout temps, de toute éternité, pour être celle qui écraserait la tête du démon. Et ça, c'est un acte de guerre. Et ça reprend, bien sûr, vous connaissez bien ces textes, il faut souvent les méditer. Ça reprend ce qui avait été annoncé sur elle déjà au début. De tout temps, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu avait en vue la très sainte Vierge Marie. C'est pour cela que de tout temps, il a décidé qu'un jour viendrait une jeune fille de la tribu de David, et que cette jeune fille recevrait ce privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception. Aussi extraordinaire en soi que les privilèges de l'infaillibilité pontificale, ça se rapporte. Et le bon Dieu a annoncé ça déjà à Adam et Ève, dès la conséquence du péché originel, tout de suite il va annoncer, je mettrai entre toi, le démon, et elle, la Vierge, une incompatibilité. Une incompatibilité totale, une haine totale. Inimicitias, c'est très fort en latin. La haine. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. La très sainte Vierge Marie est celle qui porte la haine contre le péché. Et c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on parle de charité à longueur de journée. Les gens modernes sont dégoulinants de charité humaine et dégoulinants de haine contre notre Seigneur Jésus-Christ en même temps. Ils oublient complètement que si on veut aimer notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une condition sine qua non. Ça, c'est complètement oublié dans le monde moderne. Il ne peut pas y avoir d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ sans haïr le péché. Vous pourrez faire croire que vous êtes de notre Sainte Vierge Marie, que vous êtes de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à votre absence de haine du péché, nous verrons que vous n'êtes pas de la famille de notre Seigneur. Et c'est pour ça que la très Sainte Vierge Marie est celle qui fait les différences, celle qui fait la coupure, la cassure entre les fils qui suivent, les enfants qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ et les enfants qui suivent le démon. Et ça va être repris, ça vient donc du tout à fait le début, l'apostasie, le péché originel d'Adam et Ève, ça va être repris déjà à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera repris plus tard par le Saint-Évangile, mais déjà à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien avec cette prophétie qu'il faut utiliser pour comprendre la première prophétie du proto-évangile du livre de la Genèse. Il reprend exactement les mêmes choses. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Et je mettrai justement un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Pourquoi l'âme de la très sainte Vierge Marie a été transpercée par un glaive de douleur? La réponse, parce que l'âme de la très sainte Vierge Marie était toute remplie du bon Dieu. Et justement parce que la très sainte Vierge Marie avait cette haine farouche contre le péché. Donc si vous avez, mes bien chers frères, et tout catholique, nous devons avoir cette haine du péché, si nous avons cette haine du péché en nous, ben soyons pas surpris si le démon à ce moment-là va tout faire pour nous détruire comme il a tout fait pour essayer de détruire notre Sainte Vierge Marie. Et c'est ça qui est peut-être une des grandeurs du catholique. Le catholique, c'est un soldat qui va participer à ce combat gigantesque. Combat entre ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent que notre Seigneur Jésus-Christ soit premier dans leur vie, et combat de ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Combat entre ceux qui aiment le péché, le démon, ses pompes et ses œuvres, le péché en général, et ceux qui ont une haine du péché. Donc posons-nous cette question bien souvent, bien chers frères, est-ce que nous avons la haine du péché? Est-ce que nous transmettons cette haine du péché à nos enfants? Et je pense que c'est ce qui explique les catastrophes du monde moderne. Non seulement les parents ont perdu cette haine du péché, mais ils ont surtout perdu beaucoup plus gravement, ils ont perdu la volonté de transmettre la haine du péché. Et si on ne transmet pas la haine du péché, eh bien à ce moment-là, c'est toute la foi catholique qui s'écroule. Il suffit d'écouter 30 secondes les discours absolument ahurissants de Bergoglio à Rome, soit ceux qu'il a prononcés devant les JMJ au Portugal, soit ceux qu'il a prononcés il y a peu de temps à Marseille. Et on se rend bien compte que non seulement il ne veut pas, c'est une volonté délibérée, il ne veut pas transmettre cette haine du péché, et c'est beaucoup plus grave que ça, il y a une volonté délibérée de dire que le péché n'est pas quelque chose de mauvais, il faut donc aimer ce péché. Et on le voit très bien, il suffit d'écouter ce qu'il dit. C'est ça le crime du monde moderne. Le crime du monde moderne, c'est d'avoir caché le péché. On peint le péché avec une jolie couleur rose bonbon ou toute dorée. On met un peu quelques gouttes de parfum là-dessus pour essayer de faire croire que c'est pas si mauvais que ça. Et c'est vraiment, c'est bien que c'est difficile de dire des choses pareilles. Parfois les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, comment pouvez-vous dire des choses pareilles sur quelqu'un qui se présente comme le pape? Mais la réponse, elle est là, justement. Comment quelqu'un qui a perdu la haine du péché peut-il se présenter comme pape? Est-il possible pour quelqu'un qui aime le monde comme Bergoglio l'aime, et ne se cache pas de le dire, comment est-il possible pour quelqu'un qui a un tel amour pour le monde d'avoir un amour pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alors que notre Seigneur Jésus-Christ a explicitement expliqué, et à de nombreuses reprises, qu'il veut justement qu'il y a deux camps. Il y a le camp de notre Sainte Vierge Marie, il y a le camp des enfants de notre Sainte Vierge Marie, et il y a le camp du bon Dieu. Il y a le camp du bon Dieu, et en face de ça, il y a le camp du démon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je mettrai une inimitié entre tes enfants et ses enfants. A-t-il dit. Donc posons-nous la question, mes bien chers frères. Je pense que c'est capital. Est-ce que je garde dans mon cœur une inimitié pour le camp du démon? Est-ce que j'ai de la haine pour le péché? Ça ne veut pas dire d'avoir de la haine pour le pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein d'amour pour le pécheur. Mais le pécheur repentant, attention! Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'il faut que notre Seigneur Jésus-Christ garda de l'amour pour le pécheur non repentant. Et on détruit tout le plan de charité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a annoncé? Je ne suis pas venu apporter la paix, a-t-il dit, je suis venu apporter la guerre. Je suis venu apporter le glaive. C'est ça qu'il a amené. Et c'est pour ça qu'un catholique, mes bien chers frères, c'est quelqu'un qui a un glaive en main. Pour tuer quoi? Pour séparer, le glaive sépare. Glaive à double tranchant, qui sépare ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui veulent adorer le monde. Ceux qui veulent que notre Seigneur Jésus-Christ soit au centre de tout. Et ceux qui, au contraire, veulent que le démon soit au centre de tout. Pendant cette dernière retraite, j'ai fait écouter à mes retraitants, il y en avait six, parce que j'ai six chambres, je ne sais pas, c'était plus de six personnes, au petit gîte que je loue pour la retraite à l'Edergue. J'ai fait écouter des textes de Mgr Lefebvre ahurissants. Oui, cite le numéro 2 de l'église de la Vatican II à ce moment-là, cardinal Ratzinger. Et cardinal Ratzinger dit expressément, nous ne voulons plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur le monde. Et Mgr Lefebvre de répondre, comment voulez-vous qu'on s'entende? Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur le monde. Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi du monde, roi de la société, roi des rois parce qu'il est, il est créateur de la société, parce qu'il est créateur des hommes, parce qu'il est rédempteur des hommes. Et vous ne voulez plus qu'il soit roi de la société. Puisqu'au nom de la charité, il faut ne plus demander la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces choses-là étaient encore possibles au Moyen-Âge sous Saint-Louis, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus une bonne chose. Et que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, va dire Ratzinger, est une erreur. Et qu'à l'époque du Moyen-Âge, ça n'avait pas prêché l'Évangile. Au fou! C'est là où on se rend compte, mes bien chers frères, et je pense que cette fête doit nous le rappeler, c'est là où on se rend compte qu'il y a deux églises. Il faut avoir le courage de regarder et courage de comprendre que le bon Dieu nous demande de participer à ce plan extraordinaire de combat. Il vous demande, il me demande d'être des soldats dans ce combat. Un soldat, c'est quelqu'un qui prend des coups. Imaginez un soldat qui dit, écoutez, moi je veux bien me battre, mais j'ai mal aux doigts, là, vous comprenez, je ne vais pas prendre des coups sur le bout des doigts. Et puis, le pauvre petit ennemi qui est en face de moi, il faut être gentil avec lui, il ne faut pas lui donner des coups, il va avoir mal aux doigts lui-même. Donc, je reste dans mon coin, et puis j'attends la fin du monde. C'est pas ce que demande le bon Dieu. Encore une fois, reprenez ce qu'a dit Dieu à Satan. Je mettrai une inimitié. Je mettrai une haine. Est-ce que vous avez cette haine, mes bien chers frères? Et c'est pour cela qu'il y a cette phrase, j'écraserai la tête du démon. Il faut bien noter la forme grammaticale qui est utilisée. J'écraserai, elle écrasera au futur. C'est pas au présent. Ce serait bien, moi j'aurais bien aimé que Dieu ait parlé au démon en disant, voilà, c'est au présent. Elle écrase la tête, ta tête aujourd'hui même. Tu t'es révolté, tu as poussé Ève à la révolte. Je t'écrase la tête par la très sainte Vierge Marie. Plus de démons, plus de tentations, tout le monde va au ciel, alléluia. Ça aurait été plus facile pour vous et pour moi, oui. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Elle t'écrasera la tête, pluriel. Et tu chercheras à la mort au talon. Tu chercheras, ça en sous-entend, tu vas essayer de faire chuter la très sainte Vierge Marie, mais tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas y arriver, parce qu'elle est Immaculée Conception. Voilà bien, chers frères, ce qu'il faut comprendre. Et ceci doit être mis en parallèle avec un autre futur utilisé par la très sainte Vierge Marie pour une phrase très connue à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Encore, elle n'a pas dit, elle n'a pas annoncé aux enfants de famille de Fatima, aujourd'hui en 1917, c'est la fin de la bagarre, j'écrase la tête du démon. À la fin, quand sera cette fin? J'en sais rien, vous non plus. À la fin des temps. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura la victoire à la fin des temps. Ça, c'est sûr. Il est sûr qu'on va mourir. Il est sûr qu'il y aura un jugement, qu'on sera jugé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ça plaise ou non à M. Macron et à ses petits copains, le jour de notre mort, le jour de la fin des temps au moins, nous serons tous obligés de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Et sur là, il n'y a plus de discussion possible. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il nous faut faire extrêmement attention à toutes ces choses-là. Je sais que cet enseignement, qui correspond tout à fait à l'enseignement des pères, est difficile à encaisser. Permettez-moi de vous dire qu'il a aussi été difficile à encaisser pour la très sainte Vierge Marie. Il y a cette phrase dans l'Évangile. « Maria autem conservabat omnia verba ec in verbo in corde suo. » La très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Il y a des tas de choses qu'elle n'a pas compris. La très sainte Vierge Marie n'avait pas la science infuse, contrairement à ce que racontent certains traditionalistes. Et lorsque Jésus aura 12 ans, elle va rester sans prévenir ses parents à la ville de Jérusalem et que les parents tout angoissés vont le chercher pendant 12 ans, pendant 3 jours. Ah ouais, que c'est un peu fort de café. Imaginez que vous alliez en visite à Paris, vous perdiez votre enfant pendant 3 jours en plein Paris. Et quand la très sainte Vierge Marie enfin retrouve son enfant au bout de 3 jours, il dit « Mon enfant, votre père et moi tout angoissés, nous vous cherchions. » Réponse un peu sèche, un peu dure presque de notre Seigneur. « Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Et elle conservait toutes ces choses. Et là, elle se rappelait ce qu'avait dit le vieillard Siméon. « Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. » Alors, mes bien chers frères, il faut avoir ce courage aujourd'hui en cette fête de Notre-Dame du Rosaire. Avoir ce courage de comprendre que le bon Dieu nous demande de participer à ce combat gigantesque. Ça fait des milliers d'années qui dure ce combat. Il a commencé avec la révolte d'Adam et Ève, il y a 7000 ans. Et il durera jusqu'à la fin des temps, parce que jusqu'à la fin des temps, il va falloir se battre. Et on trouve ça chez tous les grands chefs de guerre. Un autre grand chef de guerre qu'on peut donner en comparaison, c'est l'archange Saint-Michel. Quelques jours, c'était le 29, il y avait la grande fête de Saint-Michel. Voilà un chef de guerre. Et lorsque le bon Dieu l'a envoyé pour remettre un peu d'ordre dans le ciel, après la révolte de Lucifer, quand Lucifer, avec un tiers des anges, s'était révolté contre Dieu, se prétendant Dieu lui-même, voulant prendre la place du bon Dieu, sa vie a été réglée. Qu'est-ce qu'a dit Saint-Michel? Quid ut Deus est? Qui est comme Dieu? Il a mis tout le monde dehors. Un tiers des anges ont été mis dehors à ce moment-là. De façon tellement grave, comme un ange ne peut pas regretter un péché qu'il a commis, puisque les anges n'ont pas été créés en état de grâce permanent, ils ont été créés en état de grâce temporaire. Ils ont eu cette épreuve, un tiers est tombé, dehors tout le monde. Et en plus de ça, création de l'enfer à ce moment-là. Dieu, le bon Dieu, celui qu'on appelle avec raison le bon Dieu, crée l'enfer pour châtier les mauvais anges. Et en même temps, décide de créer les hommes pour un jour venir prendre la place, les places laissées libres au ciel par la chute des mauvais anges. Voilà les chefs de guerre qui doivent être nos exemples, mes bien chers frères. Prenez l'exemple de la Sainte Vierge Marie, un combat. Prenez l'exemple de Saint-Michel, un combat. à notre chef de guerre qui doit être très 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 présent à nos cœurs de Français. C'est Sainte Marie, c'est Sainte Jeanne d'Arc, encore un chef de guerre extraordinaire. Et elle aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui a demandé d'aller prendre une bouteille d'eau bénite et d'aller asperger gentiment les messieurs les Anglais pour qu'ils quittent le pays et qu'elle puisse tranquillement aller consacrer le dauphin à Reims? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a fait dire, tu vas chercher l'épée de Saint Charles Martel. Martel à Catherine, Sainte-Catherine de Fiébrun. De Fiébrun, pardon. Et tu vas aller chercher l'épée de Charles Martel. Elle avait l'épée à la main. Et Dieu sait si Sainte Jeanne d'Arc a répandu des larmes amères en voyant justement. Elle pleurait constamment de voir tous ces Anglais qui devaient mourir pendant la guerre. Mais elle avait compris qu'elle devait être ce chef de guerre. Mais elle avait compris aussi une chose qui est absolument fondamentale, c'est que dans ce combat terrible, il faut être en état de grâce. Il faut que les soldats soient en état de grâce. Et donc la première chose qu'elle a fait, c'est exiger que les soldats soient en état de grâce. Elle a fait confesser et communier toute l'armée française. C'est pas rien, ça. Voilà les exemples que le bon Dieu nous donne, mes bien chers frères. Et aujourd'hui, alors qu'en face de nous, ceux qui, en principe, devraient être nos chefs, en principe, devraient être ceux qui organise cette lutte contre le démon, cette lutte contre le péché, qui nous pousse à la haine contre le péché pour convertir les pécheurs, alors que ces gens-là, qui se devraient être nos chefs, nous poussent à l'apostasie, nous poussent à l'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut plus que jamais nous accrocher à la bouée de sauvetage qu'est la Très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie n'est pas, mes bien chers frères, une bouée de sauvetage qu'on peut prendre ou laisser tomber. Ou on attrape, ou on coule. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas continuer à flotter tout seul. J'ai besoin de notre Sainte Vierge Marie. Donc gardez votre chapelet tous les jours. Voilà la meilleure protection contre le démon. Mitraillette à 50 coups. Mieux si vous avez un peu de temps, la mitraillette à 150 coups, je vous conseille. Je fais des réserves de munitions, du rosaire. Eh bien, chers frères, si nous avons compris toutes ces choses-là, on comprend beaucoup de choses, mais attention à une chose qui est fondamentale. On voit très bien dans la vie de la Très Sainte Vierge Marie, c'est clair et net, quel est le carburant littéralement spirituel que va utiliser la Très Sainte Vierge Marie pour arriver à tenir le coup. L'oraison, l'esprit d'oraison. On retrouve chez ce même état d'esprit, ce même esprit d'oraison chez la Très Sainte Vierge Marie, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Avant d'envoyer Sainte Jeanne d'Arc au casse-pipe, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que Sainte Jeanne d'Arc apprit à faire oraison. On lui a envoyé ses voix extraordinaires, ses saintes extraordinaires. Saint-Michel, justement, c'est pas pour rien. Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, pour lui apprendre à faire oraison. Et c'est uniquement une fois qu'elle savait faire oraison, à ce moment-là, elle est partie. Va, fille de Dieu. Parce que la France est en mauvais état. Et elle est partie. Elle avait justement cet esprit de raison qu'on retrouve, bien sûr, c'est Saint-Michel au ciel, on retrouve c'est la Très Sainte Vierge Marie, on retrouve c'est Sainte Jeanne d'Arc. Ayez cet esprit de raison, mes bien chers frères. Pourquoi l'oraison est tellement importante? S'accrocher à l'esprit de raison. Parce que quelqu'un qui prie, qui a l'esprit de raison, qui fait cette meilleure méditation, soit 20 minutes de méditation tous les jours, je vous assure, le démon ne peut pratiquement rien contre lui. Il sera attaqué, ça c'est sûr. Mais il aura une force extraordinaire. On voit très bien aujourd'hui, plus que jamais, même si c'est difficile à encaisser, nous sommes obligés de faire un choix. C'est peut-être ce que veut le bon Dieu. Le bon Dieu a permis que nous soyons en 2023, à une époque où tout s'écroule. Ça aurait été quand même certainement plus facile d'être au XIIIe siècle sous Saint-Louis. Le bon Dieu a voulu qu'on soit en 2023. Ça aurait été certainement plus facile d'avoir à Rome un Saint Pie X au début du 19e siècle, du 20e siècle. Le bon Dieu a permis que nous soyons sans autorité. Il sait ce qu'il fait, mais il est obligé de vous donner, de me donner les grâces dont vous et moi nous avons absolument, absolument besoin. Alors prions notre rosaire, Notre-Dame du Saint Rosaire. Il faut qu'elle rentre dans notre âme, il faut qu'elle nous donne cet amour du rosaire. Nous ne pouvons pas avoir une haine du péché, une haine du péché sans amour du rosaire, sans amour de ces trois séries de prières, des mystères joyeux, des mystères douloureux, des mystères glorieux qui correspondent à la triple étape pour monter vers le bon Dieu, la vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive. Nous demandons cet amour du rosaire, cet amour de cet esprit d'oraison que va nous donner le rosaire. Et c'est en ayant cet esprit d'oraison que nous aussi nous pourrons faire la même chose qu'a fait notre Sainte Vierge Marie. Nous aussi nous pourrions conserver dans nos cœurs toutes ces choses, les méditant sans cesse. C'est ça la vie d'oraison. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très Sainte Vierge Marie toutes ces grâces de lumière, ces grâces de force. Le chrétien, c'est un soldat. De quoi a besoin le soldat? Il a besoin de force. Pendant cette retraite, j'ai lu l'écriture à table, un petit livre que j'aime beaucoup, les soutanes sous la mitraille du Père Gaël. Un livre du début du siècle qui raconte tout le travail de conversion fait par les soldats sac à dos. Le gouvernement maçonnique avait décidé d'envoyer les prêtres français à la guerre, Première Guerre mondiale, et mettre en première ligne. Ils espéraient que, contaminés par l'esprit de l'armée, tous ces prêtres allaient perdre la foi, que tous les séminaristes qui seraient envoyés dans ces conditions perdraient tous la foi. C'est l'inverse qui s'est fait. Exactement l'inverse. Ces prêtres étaient en première ligne, refusaient de porter les armes parce qu'ils étaient prêtres. Ils sont tous engagés dans les tranchées. Ils se sont tous engagés dans les services d'ambulance. Ils ont fait des miracles de conversion. Des miracles. Ils partaient dans la boue, dans la déchéance, humainement parlant, la plus absolue, pour aller donner l'absolution à tous les mourants. Commencer par donner l'absolution à tous ceux qui mouraient. Puis une fois qu'ils avaient fait leur premier passage, ils revenaient en arrière et à ce moment-là, ils commençaient à mettre sur les brancages ceux qui n'étaient pas encore morts. Et ils ne se préoccupaient pas de savoir si c'était français ou allemand, d'ailleurs. On les soignait tous. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous devons être. Nous aussi, nous devons être des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons apporter à notre Seigneur Jésus-Christ cet amour de notre Sainte Vierge Marie, cet amour de la vérité. Le monde meurt parce que le monde a perdu la vérité. J'ai entendu, je vais terminer par ça, une réflexion qui m'a été donnée à vomir, de Bergoglio, il l'a dit publiquement. Il était avec un groupe de jeunes et puis il demandait, qu'est-ce qui est meilleur? L'église catholique ou l'église évangélique? Après une question. Et les jeunes, un peu surpris, n'osaient pas répondre. Et Bergoglio de répondre, les deux. Une église qui incorpore les deux, c'était l'écuménisme. Une église qui est à la fois évangélique et à la fois catholique. Donc une église qui incorpore et notre Seigneur Jésus-Christ, fondateur de l'église catholique, et Martin Luther, prêtre adultère, prêtre apostat, fondateur de l'église protestante. Ils sont fous, bien sûr, frère. Alors, ayons le courage de prêcher la vérité envers et contre tout, parce que c'est ce que demande notre Sainte Vierge Marie pour pouvoir nous prendre un jour tous au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.